La gardienne, troisième partie, chapitre 7. Un matin de décembre, Clovis, le gendre, revint au Paridier. Il était maigre et de teint jaune, recuit de misère, avec des yeux de loup. Des os de sa forte charpente faisaient saillie sous sa capote. Il embrassa sa femme, souleva brusquement son fils, qui eut peur, et se mit à crier. Il ne pouvait s'empêcher de trembler un peu. N'étant pas de ceux qui aiment à laisser voir leur émotion, il se retenait de parler. La misangère entrait. Il lui donna l'accolade à elle aussi. Puis il dit « J'ai faim !» Ôtant sa capote, il s'assit au bout de la table, du côté du feu, et tira un couteau de sa poche. Ses regards allaient vers le buffet et marquaient son impatience. Solange apporta le pain et un morceau de lard, puis cassa des œufs pour une omelette. Il mangea solidement, se coupant d'énormes bouchées qu'il avalait vite, d'un coup de gosier, le front plissé, la tête projetée en avant. La chair sèche de ses joues s'étirait, puis se rassemblait en nœuds durs. Et le jeu de ses mâchoires faisait remuer jusqu'aux cornes de son bonnet de soldat. La misangère lui versa du vin. Il s'arrêta pour vider son verre et dit à mi-voix « Vin Dieu !»« Il y a donc longtemps que vous n'avez rien mangé ?» demanda la belle-mère. La bouche pleine, il secoua la tête, puis répondit du mieux qu'il put « Et il n'y a que 3 ou 4 heures, pas plus !» Un moment après, attirant à lui l'omelette, il acheva sa pensée. « J'ai toujours désir de manger, je n'ai que du vent dans l'intérieur. » Quand il fut un peu rassasié, il regarda autour de lui plus attentivement. Par la fenêtre, il aperçut Christophe qui sortait de l'étable avec 2 bœufs enjugués. À ce moment, Solange disait « Tu n'as pas bonne mine. » « Tu as beaucoup maigri. » Il répondit. « Ah, ne t'inquiète pas, le coffre est bon. » Puis tout aussitôt il demanda, les yeux tournés vers le valet, « Où va-t-il celui-ci ? » ?»« Il mène le tombereau au champ des crépelles pour les topinambours, » dit la misangère. « Ah, les bœufs sont en état ? Vous avez dû piquer dans le foin ? » ?»« Non, pas trop. » Jusqu'à présent, le fourrage n'a pas manqué. Les betteraves étaient belles. « C'est bon, » dit-il. « Je vais voir ça. » Il se leva et sortit, tenant en son poing un quignon de pain où il mordait encore. La misangère, à voix basse, dit à Solange. « Marche à côté de lui. C'est ta place. » Solange prit son enfant par la main et rejoignit son mari. La misangère, derrière eux, sortit aussi. Clovis, d'abord, se dirigea vers l'étable. Il compta les bêtes. Le nombre n'en était pas grandement diminué, ce fut une surprise pour lui. « Tu as donc acheté ? » demanda-t-il à Solange. « Oui, » répondit-elle. La misangère vint à son aide. « Nous avons vendu, acheté, et nous avons élevé aussi. » Clovis ne questionna plus, mais son contentement fut visible. Seules, 2 vaches demeuraient, du bétail d'avant-guerre. Il prononça leur nom au passage, puis examina attentivement toutes les autres qu'il ne connaissait pas. À la fin, il hocha la tête et dit « Il en faut du fourrage pour garder toutes ces bêtes en état. « Nous en avons, » répondit la misangère. Et, passant la première dans la grange, elle montra les betteraves, les pommes de terre, les bottes de choux et de navets, et le tas de foin à peine entamé. La surprise de Clovis fut plus grande encore dans le hangar aux outils. S'il avait compté trouver quelque part un changement avantageux, ce n'était certes point là. Or, il avait devant les yeux tout un outillage neuf. Charrette, rouleau, herse, charrue, faucheuse. Il demanda, inquiet tout à coup, « Où donc as-tu pris l'argent ?» Solange répondit, « Les denrées se sont vendues très cher. » Et la misangère reprit encore, « Tous les produits de la terre sont à des prix que vous n'imaginez pas. Nous avons payé comptant et, soyez tranquille, il reste à Solange de l'argent placé. Mais vous n'avez pas tout vu. » Au fond du hangar, elle tira une bâche qui recouvrait la lieuse. « Avec cela, dit-elle, la moisson n'est plus qu'un jeu. » L'homme fit le tour de la machine, l'examina curieusement, la touchant avec précaution, d'une main légère, car il n'en connaissait pas le fonctionnement. Redressé, il vint près de sa femme et, lui mettant une main sur l'épaule, il dit simplement « Merci ». Il sortit le dernier du hangar, se retournant à chaque pas pour admirer le riche outillage. Dans la cour, il prit l'enfant dans ses bras. « Maintenant, dit-il, allons voir les champs. » Solange, à cause de la pluie qui menaçait, fit mine de rester en arrière, parla de l'enfant qui prendrait froid. Mais la misangère commanda encore, d'une voix basse et dure, « Marche à côté de lui !» Ils passèrent d'abord par le prébuffier, où la terre, à présent, semblait endormie. Clovis s'enquérait des rendements, des fumures, et la misangère le renseignait. Au champ des crépelles, qui était proche, ils rencontrèrent Christophe, chargeant ses topinambours. Clovis parla au valet d'une voix amicale. Puis il fit cette observation qu'avec la seule aide de ce jeune gars, elle n'avait pas dû venir facilement à bout des semailles. « Elles sont terminées, cependant, » dit Solange. Et la misangère, « Allons à la tombe Renaud, nous verrons les emblavures. » Ils allèrent donc à la tombe Renaud. C'était une petite éminence où poussaient quelques noyers. De là, on avait sous sa vue les terres principales du Paridier, en bordure d'un grand carré de plaine, qui était le grenier du pays. En cette saison d'hiver, aux yeux d'un homme de ville, cette terre jaunâtre et presque nue, cette plaine monotone étendue sous un ciel lourd de pluie, eût semblé chose fort triste et sans nulle signification. Mais, aux yeux d'un paysan, le fort et minutieux travail des hommes apparaissait avec évidence, et la terre, déjà, donnait sa promesse. Clovis, debout sous les noyers, son fils entre les bras, regardait les emblavures. La misangère, le bras tendu, donnait ses explications. Lui restait immobile et muet. Ses yeux allaient des guérets récemment ensemencés, où se voyaient encore les rayures de la herse, aux champs d'avoine précoce, couverts de sombres touffes étalées. Avec une attention particulière, ses regards se posaient sur les belles étendues de blé, où les tiges rigides d'un vert pâle perçaient la terre comme une chevelure rase et drue. « Ici, disait la misangère, nous avions des betteraves. Semé tard, le grain travaille encore. La voisine des Alleux s'est acheté un semoir et nous l'a prêté. Acheter un semoir, c'est faire une économie, il y faudra penser. » Clovis regardait. Une émotion silencieuse et vaste tremblait en sa poitrine. Et c'était, ensemble fondu et se renforçant, la joie de la liberté, la joie du bien-être après d'étonnantes misères, mais aussi la joie de retrouver son pays, de retrouver l'amitié des siens, et encore la joie virile qui passait son espoir de reprendre sa tâche en belles conditions, d'un cœur ardent, avec des bras toujours vigoureux. Clovis, immobile, ne disait rien. Il pleurait. un sanglot profond qu'il ne put retenir secoua sa haute et rude carcasse. La misangère aussi s'était tue. En son âme se levait la grande joie d'orgueil. Dès le lendemain, ils se heurtèrent. Solange avait déjà parlé. Le gendre commença par remercier. « Vous avez travaillé chez moi, dit-il, et, je m'en doute, travaillé beaucoup. La mollesse n'est point votre défaut. Je suis donc endetté envers vous pour l'aide que vos bras ont apportée. » La misangère, à qui le ton ne convenait pas, répliqua. « J'ai fait ce que je devais faire. La dette dont vous parlez, je ne vous en demanderai jamais paiement. » Clovis continua. « Vous avez travaillé chez moi, je vous en sais gré. Mais me voilà de retour. Dans quelques jours, je serai libéré, et vous pourrez vous reposer. Il ne faut point, au même chantier, plusieurs voies pour commander. Chez nous, maintenant, Solange dirige la maison, et pour le reste, c'est ma volonté qui règne. » Elle ne fut pas surprise, car elle attendait ses propos. Tout au plus pensa-t-elle qu'il venait un peu tôt. « Vous avez raison, » dit-elle. Mais lui voulut tout de suite régler la question. « Les vieux avec les jeunes, ça ne va jamais trop bien. Vous le savez comme moi. Les vieux veulent commander, et ce n'est plus leur tour. Vous êtes venu vous installer chez moi, avec mon beau-père à présent défunt. Vous y avez vécu, je ne vous le reproche pas. C'était plus commode. Solange pouvait ainsi vous aider à soigner le beau-père. Maintenant, cela change un peu. Comprenez-le bien. Il n'y a plus de malades à soigner. Et à Château-Galet, vous avez votre maison. C'est bien mon idée, dit-elle, de retourner chez moi. À ce sujet, il n'y aura pas de mouvement entre nous. Bien qu'elle fût blessée assez cruellement, elle n'en voulut rien laisser paraître. Un moment après, elle parla ainsi. Dimanche, Norbert doit venir au pays. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous rassembler et vous faire déjeuner à ma table à Château-Galet. J'irai, dit le gendre. Il faut bien que nous parlions de l'arrangement, oui, de cet arrangement que vous avez fait, partageant vos terres et votre argent pendant que moi je crevais de faim au chenil des Boches. J'aurais peut-être quelques mots à dire. À ce grand déjeuner du retour vinrent les deux fils, le gendre, la Bru et les trois ravisés. Solange et Maxime ne parurent pas. L'absence de l'enfant choquait la misangère. Elle la voit devant Norbert. Celui-ci, assez bonhomme mais non des plus fins, observa. « Il n'a pas voulu nous suivre. Il vous craint. Je ne sais pas ce que vous lui avez fait. » Le gendre, brutal, pensa qu'il était juste d'expliquer les choses clairement. « Parbleu, dit-il, le petit n'est pas fou. Il craint qu'il bouscule. À vouloir trop sévèrement dominer, on perd l'amitié des autres. » Il n'y eut que Marguerite ravisée pour protester. Elle leva des yeux indignés et sa voix fraîche, après celle des hommes, sonna bref. « Taisez-vous » dit-elle. La misangère sembla n'avoir rien entendu. Elle s'approcha de son fourneau potager et, penchée, souffla sur la braise. Marguerite s'étant levée pour l'aider, elle la ramena doucement à sa place, à côté de son fiancé. « C'est mon plaisir, » dit-elle, de vous voir tous assis à ma table et de vous servir. Ce jour est beau, qui rassemble autour de moi ceux qui me restent. » Elle apporta la soupière et dit encore, « Mangez en paix, pauvre qui avait eu tant de peine. » Puis elle s'occupa de sa cuisine sans se mêler davantage à la conversation. Les hommes parlèrent de la guerre, pour commencer. ravisé, par droit d'âge, n'avait pas combattu. Travaillant de son métier à l'arrière des armées, il n'avait pu voir grand-chose. Pour Clovis et les deux frères, il en allait différemment. Ils en avaient long à dire, et chacun, écoutant les autres, ne s'en laissait pas compter. Norbert avait fait toute la campagne avec les jeunes d'active, se trouvant toujours au bon endroit quand il fallait donner un coup. Georges, lui, était allé au pays d'Italie. Il avait combattu ensuite avec des Anglais, des Américains, des Noirs, des Blancs, des Jaunes et des Bronzés. Et ces blessures ne comptaient-elles pour rien? Clovis fauchait leur gloire. « La bataille? Je connais ça aussi bien que vous. Mais crever de misère, dans les camps de représailles, vous faites-vous seulement une idée de ce que cela peut être, hein? Je vous dis que vous n'avez rien vu. » Nous avons toujours bien vu les obus nous arriver sur la tête pendant que tu faisais la corvée chez les belles dames allemandes. Au moins toi, tu étais à l'abri et sûr de revenir. Sûr de revenir. Clovis serrait les poings dans son impuissance à dire les souffrances abominables, la lente agonie désespérée de ceux qui, parmi les prisonniers, étaient faibles de corps ou faibles d'âme. Il était encore enragé de haine, non point seulement, comme les deux autres, contre les gouvernements fauteurs de guerre, mais directement contre les Boches, tous les Boches, du plus petit à l'empereur. « En somme, répéta Norbert, tu t'en es tiré sans grand dommage. » Ayant raison tous les deux, ils n'en voulaient point démordre, et ils finirent par échanger des propos hargneux. Moins âpre, Georges plaisantait avec sa belle-sœur et avec Marguerite. À propos du partage, Norbert et Clovis se trouvèrent du même côté contre Georges, ou plutôt contre Ravisé, qui, cette fois, leur tint tête. Ils s'en prirent à la mère, qui décidait sans consulter personne, et ils blâmèrent ouvertement son penchant à vouloir tout diriger. Quelques mots passèrent, rappelant l'accident du père Claude et sa triste fin. La misangère ne montra point qu'elle en était blessée. « Mes enfants, dit-elle, rien n'est encore fait. Vous êtes réunis. Si l'arrangement ne vous convient pas, cherchez-en un autre. » Ils cherchèrent et ne trouvèrent point. Ravisé soutint encore une fois que Georges, vu le prix des terres à présent, n'était pas du tout favorisé, bien au contraire. Norbert en convint à la fin. Clovis dit « Je veux me rendre compte. Je prendrai un expert. Le partage des prés, en tous les cas, ne paraît pas avantageux pour moi. » Ayant fini de manger, ils décidèrent d'aller sans retard examiner les choses sur place. Marguerite demeura auprès de la misangère pour l'aider à desservir. Montrant les hommes qui, dans le courtil, parlaient avec vivacité, elle murmura « Ils ne devraient pas se disputer aujourd'hui. » La misangère dit « Laissons-les se disputer. Ils finiront bien par se mettre d'accord. J'aime mieux les voir ainsi ardents et soucieux de leurs intérêts que mornes et découragés. Ils sont redevenus ce qu'ils étaient, vois-tu, car ils ont retrouvé intact et même embellie la place que nous leur avons gardée. Ma fille, c'est un grand jour. »